Françoise Combes, astrophysique, 2012.
Je vais vous parler de matière noire parce que c'est un problème que nous avons depuis des dizaines d'années. On remonte à Zwicky en 1937, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est toujours pas résolu. Et comme vous le savez, nous avons quand même une grande précision depuis ces dizaines d'années. Depuis au moins 10-15 ans, nous savons quel est le contenu de l'univers.
Stanislas Dehaene, neurosciences, 2013.
Vous vous allongez dans mon IRM, en 5 minutes, je vais détecter cette région dans votre cerveau, parce que vous êtes tous de bons lecteurs. Le plus remarquable, c'est que cette région est située au même endroit, à plus ou moins 5 mm d'écart-type, chez chacun d'entre nous. Il y a là quelque chose d'assez mystérieux. Nous avons une sorte d'organe mental pour la lecture, alors que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas pu y avoir d'évolution génétique pour cela. Et puisqu'on parlait de la lecture en japonais ou en chinois tout à l'heure, il est tout à fait extraordinaire de constater que dans toutes les cultures du monde, nous avons cette activation. Elle peut être un tout petit peu plus grande ou plus petite. S'il y a des questions, on pourra discuter de ce point. Elle peut être un peu plus ou moins latéralisée, être un peu moins latéralisée dans l'hémisphère gauche en chinois que dans notre alphabet, mais ce sont de toutes petites différences. Nous faisons tous appel, grosso modo, à la même région cérébrale, y compris lorsque nous lisons de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est toujours dans l'hémisphère gauche que se trouve cette région, chez 96% des personnes droitières.
Serge Haroche, physique, 2009.
Je vous rappelle les propriétés que l'on connaît tous sur le photon, parce qu'on l'étudie dans des conditions un peu inhabituelles dans notre expérience. Donc d'abord, sa masse est nulle. Il se propage, bien sûr, à la vitesse maximale des interactions, qui est la vitesse de la lumière. La raison essentielle pour laquelle il est intéressant, c'est qu'il véhicule pratiquement toute l'information qu'on a sur l'univers, qu'il s'agisse de l'information quotidienne ou de l'information scientifique. Par exemple, tout ce qu'on sait sur le cosmos, une grande partie de ce qu'on sait sur l'origine de l'univers nous provient des photons. En particulier, vous voyez, je vous rappelle ici cette carte du rayonnement primordial qui a été prise par satellite il y a une quinzaine d'années et qui montre en fausse couleur les fluctuations du rayonnement du fond cosmologique en fonction de la direction d'observation. Et je pense qu'il est intéressant de réfléchir un instant sur le sort de ces photons. Ils se sont propagés pendant des milliards et des milliards d'années sans qu'il leur arrive rien, mais ils ont été détruits lorsqu'ils ont été détectés, bien sûr. Donc c'est une propriété du photon sur laquelle je reviendrai, c'est qu'il meurt en général en délivrant son message. Une autre propriété, c'est qu'il est éternel dans l'espace libre. Ces photons avaient au moins 14 milliards d'années, mais que dès qu'on essaye de le capturer, de le mettre dans une enceinte, il devient extrêmement fragile. Même si vous prenez les meilleures fibres optiques dans lesquelles le photon peut se propager sur, disons, une centaine de kilomètres, ça correspond à une durée de vie de l'ordre qui se mesure en microsecondes. Donc il est extrêmement difficile de le garder pendant un temps long en captivité. Et dans nos expériences, on observe les photons dans des conditions très inhabituelles parce que, comme je vais vous le montrer, on peut les piéger pendant un temps qui est perceptible, d'une fraction de seconde, et on peut les détecter de façon répétée sans les détruire. Et donc j'espère vous convaincre que ça constitue une nouvelle façon, en fait, de voir.
Clotilde Policard, chimie, 2011.
Pour comprendre pourquoi un certain métal est utilisé pour une certaine fonction, il faut connaître ses propriétés physico-chimiques, mais se poser aussi des questions de biodisponibilité, donc qui sont tout à fait fondamentales pour comprendre pourquoi la nature a sélectionné un métal et non un autre.
Gérard Berry, informatique, 2013.
Est-ce que les instants ont une épaisseur? Alors ça, c'est une question qu'on va énormément traiter. On parle d'un instant, il s'est passé quelque chose à un certain instant. Alors, est-ce que c'est vrai que ça n'est pas d'épaisseur un instant? Non. D'ailleurs, il y a une très belle formule française qui dit l'espace d'un instant. J'ai toujours pensé que c'était à cause d'elle que Einstein avait inventé la relativité. Si vous réfléchissez, par exemple, en histoire, on dit la prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet. Ben oui, mais ce n'est pas un événement. C'est un événement. Au sens historique, c'est un événement. Sans instant, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est un événement atomique, c'est-à-dire si on décompose, le jour de la prise de la Bastille, il s'est passé des tas de trucs. Donc en fait, on a plusieurs niveaux de zoom sur le temps en permanence, et on va appeler événements des choses qui se décomposent en beaucoup d'autres, et le jeu de l'historien est justement d'agréger énormément de micro-comportements dans une notion d'événement. Et ça, ça va toujours être vrai, et ça va être vrai encore plus en programmation qu'ailleurs. Donc est-ce que les événements ont une épaisseur? Ça, ça va être une de nos grandes occupations de répondre à ça.
Elena Pasquinelli, neurosciences, 2012.
Les enfants sont des petits scientifiques. Dès leur naissance, ils commencent à regarder le monde et à chercher à se l'expliquer. Ça, c'est un besoin naturel qui donne lieu à des croyances. Et s'expliquer, ça sert après à contrôler, à mieux savoir ce qui nous attend. Donc, les croyances que les enfants développent, les croyances, les idées, les prévisions, ne sont pas toujours correctes de science, disons. Croyances qu'ils développent sur la gravité, sur les états de l'eau, ça, c'est plutôt étudié. C'est des croyances dites de physique naïve ou de biologie naïve ou de... Ils ont besoin de les développer, elles répondent aux besoins immédiats, c'est-à-dire elles me suffisent, moi, l'enfant, pour m'expliquer ce phénomène que je vois devant moi, je m'arrête là et je la garde là quelque part dans mon esprit. Quand après l'enfant va à l'école, qu'on cherche à lui apprendre la science, celle qui a été testée, c'est croyances, ces idées, ces explications naïves, ces fragments qu'il a dans son esprit peuvent bloquer l'acquisition des croyances vraies des sciences, disons, des croyances enseignées de manière explicite.
Alain Prochian, Neurobiologie, 2011.
Être et ne pas être un animal. Voilà, c'est ça le destin de Sapiens. Et ça, ça s'explique scientifiquement. Mais ça a aussi des répercussions, je pense, sur le plan de l'avenir de nos sociétés et même de nos civilisations.
Suzanne Solomon, Chimie atmosphérique, 2010.
Is it already too late? No, it's not. The past emissions and future emissions from all the stuff that we already have in the world would give us a warming of about 1 to 1.4 degrees. It's really what will be built in the future that's going to cause most of the emission and most of the warming of the 21st century. So our choices are critical. We're really picking between a Blade Runner future. You know, I don't know if you watch that movie much in France, but it's one of my favorites. And, you know, they're always sweating and it's always raining and it's hot. And, you know, we can have the Blade Runner future or we could have the Star Trek future. And certainly those are the kinds of images that make us think about what we're doing.
François Boucher, Astrophysique, 2014.
Les Français, d'une part, ont fait une proposition au CNES, on était un petit groupe, sur la base d'une méthode de détection totalement nouvelle, qui était pour l'espace, à base de bolomètre, c'est-à-dire où, en gros, on a dit, bah voilà, on va utiliser la quantité de chaleur qui est dissipée par un photon quand il est absorbé par un matériau, on va mesurer à chaque fois les variations du flux de chaleur. Et ça, avec ces bolomètres-là, ça va nous permettre, en lisant ça, de savoir, de cartographier le fond de ciel.
Éléonore Stutzmann, Sismologie, 2014.
Les microséismes primaires, donc c'est le signal qui est enregistré pour des périodes entre 10 et 20 secondes, sont générés par le déferlement des vagues à la côte. Donc, le mécanisme exact qui convertit l'énergie des vagues en ondes sismiques n'est pas encore complètement connu, même si on a un certain nombre d'idées. Par contre, ce qu'on est capable de vérifier, c'est que les ondes qui sont générées comme ceci sont bien des ondes de relais. On peut le regarder par la polarisation, par différents types d'analyses de ces signaux. Donc, ces ondes sont générées à la côte. Et là, vous avez un exemple de trois jours d'enregistrement au mois de février. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une très grosse tempête. Et là, vous voyez l'arrivée de la tempête, la très grosse tempête, et puis lorsque la tempête était terminée. Donc ça, c'est l'enregistrement du bruit. Donc chaque ligne correspond à 2 heures de signal. Et c'est le bruit qui est enregistré dans le Massif central à la station de Saint-Sauveur. Ce bruit-là est généré par le déferlement des vagues à la côte.
Alain Berthoz, Neurophysiologie, 2007.
Percevoir, agir. Alors, le cerveau donc ne passe pas seulement son temps à prendre des informations sensorielles et à les traiter. Au cours de l'évolution, bien sûr, les petites bêtes ont un système, nous l'avons aussi, c'est un système de fonctionnement un peu en continu, sensorimoteur, même avec des inventions très très précoces au cours de l'évolution, qui sont appelés par exemple la décharge corollaire. La décharge corollaire, c'est quoi? C'est le fait que lorsque je fais un geste, une action comme celle-ci par exemple, eh bien, en même temps que mon cerveau produit la commande motrice, il y a des copies efferents copies, on dit les pionniers, Van Hals, Metelstein, des copies de l'ordre moteur qui sont adressées au centre sensoriel, perceptif, etc., et qui font des réactualisations en anticipation. En effet, une grande partie du fonctionnement cérébral est basée sur une multitude absolument extraordinaire de mécanismes anticipateurs. Alors, très très tôt au cours de l'évolution, ce type de mécanisme anticipateur, c'est-à-dire d'envoi d'une copie efférente de l'ordre moteur à des centres qui permet en anticipation, en quelque sorte, de réactualiser la perception, etc., a été inventé, même chez des organismes assez élémentaires, des insectes, etc. Mais au cours de l'évolution, ce qui s'est produit, et qui est extrêmement intéressant, et sur lequel on travaille tous, c'est l'apparition, le développement, l'évolution d'un deuxième grand mode de fonctionnement, qui est un mode qui ne fonctionne pas du tout en relation avec les capteurs sensoriels, qui est un mode de simulation mentale et même d'émulation du monde par le cerveau, qui permet au cerveau de simuler l'action sans l'exécuter. Le plus bel exemple est le rêve. Nous rêvons tous. Pendant le rêve, on est complètement coupé du monde sensoriel. Vous pouvez essayer. Il faut vraiment chatouiller très fort pour arriver à passer cette barrière quelquefois. Et pourtant, nous voyageons, nous portons des valises, il nous arrive plein de choses. Moi, je rêve, ma vie onirique est complètement réelle, c'est absolument extraordinaire. Le cerveau n'a pas besoin du monde pour simuler complètement l'action.
Rava da Silveira, Neurosciences, 2012.
Il n'existe d'image que dans le monde physique. Au-delà du monde physique, dans votre cerveau, il n'y a pas d'image, c'est que des signaux électriques. Donc une image que vous voyez dans le monde est convertie dans la rétine en un ensemble de signaux électriques, et à l'intérieur du cerveau, la tâche du cerveau, c'est d'interpréter ces signaux électriques et de vous expliquer donc ce que vous êtes en train de voir.
Julia Laval, Informatique, 2014.
So basically the goal of our work is to describe and automate transformations on C code. So often one has a big piece of C code, something like Linux, 11 million lines of code. There's other large pieces of software out there. One makes some changes, and sometimes those changes are very widely applicable. And sometimes one doesn't have time or whatever to do the changes everywhere, so it's nice to, on the one hand, have the changes done automatically, and on the other hand, have some formal specification of the change that has been done so that other people can look at it later and pick up on what one has done, or maybe they need to update their own code in the same way.
René Friedman, Médecine, 2010.
Est-ce que dans toutes ces techniques telles qu'elles sont proposées, est-ce que l'on va atteindre la dignité humaine, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser les uns pour les autres, est-ce qu'on va prendre des ovules, prendre des spermatozoïdes, des embryons, faire porter un enfant par une autre femme comme un service et comme une exploitation, ou est-ce que l'on va mettre des limites pour que les désirs des uns ne s'appuient pas sur l'exploitation des autres. Finalement, la procréation médicalement assistée est complètement inséré dans notre société et dans nos concepts, nos valeurs. C'est un problème éthique depuis le début, comme je disais, de savoir quand est-ce que commence la personne humaine. Mais aujourd'hui, outre cette question qui reste présente depuis Aristote, c'est la question comment est-ce que l'on va utiliser toutes ces techniques, et faut-il utiliser toutes ces techniques, même si cela est possible, est-ce que cela est indispensable? C'est la question qu'il faut constamment se poser et ne pas foncer tête baissée simplement en appliquant ce qui existe. C'est un peu comme l'énergie atomique. Il y a beaucoup de choses dans nos mains sur le concept de l'homme, sur le dessin un petit peu d'un homme que l'on pourrait presque programmer. Et il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est cela que nous souhaitons pour notre société ?